Love Story ou pas?
Entre le chien et l'inuit.
Mais non, enfin
non, on est dans un film américain avec des belles valeurs, donc il n'y aura pas Love Story, à mon avis, entre Harrison Ford et l'esquimau indien inuit, mais il y aura peut-être une relation père-fille.
Ah, ce serait beau.
Ah oui.
Ce serait beau. Hein. Une relation père-fille, mais pas à la Woody Allen.
Non, pas.
Ça s'arrête là.
Non, ça s'appelle une relation perfide.
Oh, joli. Le combo toujours.
Calembour.
In a
world.
No, in a world, Jack.
What do you mean, no, in a world?
It's not that kind of movie.
Oh? Okay.
Vous êtes complètement tapé ou quoi? Ça va être une tragédie, ce truc-là.
Ce manque d'humilité en face de la nature qui se manifeste ici me terrifie.
Removing the head or destroying the brain.
Ça n'a pas l'air très effrayant. C'est juste comme une grosse dinde.
On va passer une bonne soirée, Monsieur Pignon. Une très bonne soirée.
Accrochez-vous, ça va faire mal.
Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue dans Feta Béa, le podcast qui se fait des films à partir des bandes annonces et ce sans aucune objectivité. Oh. Aujourd'hui, place aux grands espaces, à la nature, place... Ah, attendez, excusez-moi, le téléphone. Allô? Oui? Oui? Ah, ok, oui, très bien. Excusez-moi, c'était la forêt.
C'est un rire de chien.
Par cette subtile mise en scène, vous l'aurez compris, aujourd'hui place à la BA d'un film qui nous fera voyager dans le Grand Nord, L'Appel de la Forêt de Chris Sanders. Et pour cela, comme à son habitude, je ne serai pas seul, que nenni, non, je me suis mis dans la peau d'un trappeur et me suis donc entouré d'une bande de chiens de trappeurs qui feraient passer Caris, MHD et autres B2O pour des enfants de cœur. C'est bon ?
Trappeur-rappeur,
ouais. C'est pas mal. Hein.
Allez, place à mes appels de la forêt. Hey, Ambiance et mise en situation. Oh, oh Clément, mon chien de traîneau. Oui, mon beau chien au poil beau. Oh, oh, doucement avec Kevin, mon beau chien. Ouh, ah, le beau chien. Allez, filons. Johanna. Oui, voilà, montre le rythme aux autres chiens. Clémence, toujours à la traîne. Clémence. Ah, j'aurais pas dû mettre un chihuahua dans cette bande de chiens de traîneau. Ça fait ralentir le groupe. Allez, direction le Yukon. Yeah.
Ce gag va durer une heure.
J'assume moyen maintenant. Sur le papier, c'était rigolo, mais en vrai...
Moi, je trouve ça... J'ai ri.
T'as ri ?
Moi, j'ai ri.
C'était un peu malaisant par moment.
Bon, on a l'habitude de ça, hein. Le malaise. Allez, place au sommaire. Comme vous l'aurez compris pour cet épisode, on enfile les gants, le bonnet, le manteau, on sécurise notre barda, on équipe les chiens et on file tout chousse sur notre traîneau en direction de la BA de L'Appel de la Forêt. Un film de Chris Sanders qui met en scène le toujours frais Harrison Ford et un chien...
Ouais. Bah, au frais, plutôt.
Et un chien en CGI parce que pourquoi pas. Nous vous exposerons nos attentes sur ce film via sa bande-annonce qui est glissée en lien dans la description comme toujours. Hein. Voyez-la avant, c'est toujours mieux pour ce qui arrive. Puis en deuxième partie d'émission, pour le tea time, on remonte le thermostat et on troque notre équipement de Sherpa contre tartan, casquette et veste en tweed pure London British style afin de revenir sur le dernier film de Guy Ritchie que nous avons vu depuis le film, hein, pas Guy Ritchie.
Oui.
Alors, suite à sa BA, analysée dans notre épisode précédent, est-ce que le retour de Guy à sa thématique gangster dandy et enragé nous a convaincus ? On vous dira tout, mais spoiler alert, le tea n'est pas très bien infusé. Le tea aurait préféré être plus...
J'aurais préféré du café, si tu vois
voilà,
ce que je veux dire.
Peut-être un petit truc comme ça. Oh, vous entendez ?
C'était un chien.
C'était ton ventre.
Et non, c'est la forêt qui nous appelle. Pas celle-là, non.
Ah.
On ferme la porte de celle-là.
Okay.
Hop, clic. Allez, hop.
Pour le Yukon.
Vive le Yukon libre.
Oh, des chiens qui parlent. C'est incroyable. Allez, on attache les raquettes et on enfile les chiens. Non. L'inverse. Direction la forêt. Touchous.
Waf.
Le Yukon est un endroit dangereux. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Je suis monté ici parce que je ne voulais plus côtoyer personne. Et puis j'ai rencontré Buck. C'était un chien différent des autres. Il avait été gâté.
Dehors ! Viens, Buck !
Et il avait souffert.
Monte !
Mais on ne pouvait pas le briser.
Je ne sais pas d'où tu viens, mais je sais où tu es aujourd'hui. Bienvenue au bout du monde.
On va lui laisser une minute. Je crois qu'il n'a encore jamais vu de neige. Ça te dirait de tenter l'aventure? Au-delà des cartes, on pourrait aller, toi et moi, là où personne n'est encore allé. Voir ce qu'il y a là-bas.
Content que ça te plaise.
Je ne l'ai jamais vu croire en quoi que ce soit, autant qu'il croit en toi.
T'en dis quoi, Buck? C'est l'aventure d'une vie. Je viens de dormir pendant 2 jours. Dans mon lit.
Allez mes chiens, un petit bol d'eau pour vous. Vous l'avez bien mérité. Ah les beaux chiens. Vous êtes mes beaux chiens.
Il est trop tordu.
Ça fait trop pervers. Quoi.
Une BA pleine de surprises peut-être. Hein. Nous allons le découvrir tout de suite. Mais avant tout, je le ressors de son frigo où je l'avais congelé. Notre calculateur à nous est là pour nous présenter combien de plans il y a dans cette BA.
C'est moi. Bonjour les trappeurs.
Salut.
Salut le calculateur.
Dans l'appel de la forêt, il y a 71 plans en 1 minute 58, soit 0,6 plans par seconde. Il s'agit de la moyenne habituelle.
Ah bon bah c'est pas...
C'est ennuyeux.
Quel manque de surprise.
Pas très surpris pour le coup. Qu'as-tu pensé toi de cette BA?
Je suis content car il y a mon chien qui joue dans le film.
Ah, comment ça ton chien?
C'est mon chien en image de synthèse.
Ah.
C'est moi qui l'ai fabriqué.
Ah ouais.
Il me tient compagnie car je me sens souvent seul.
Oh,
vous ne m'allumez pas souvent.
Oh, le calculateur.
C'est tu pas...
Comment il chouine.
Pour mettre fin à ma solitude, faites un PayPal.
Ah ok, tu perds pas le Nord, quoi.
Ouais, non.
C'est le cas de le dire.
Les blagues géographiques. Et
Oh putain.
Ah.
Okay.
Au revoir le calculateur.
On avait oublié.
C'est un mode de mise en veille.
Bah
fait.
Voilà, vous l'êtes tout triste le calculateur.
Bah ouais,
pas
vous
là,
l'appelez
souvent.
Pas souvent, il a dit. Hein.
Ah ouais, mais en même temps, il est parti seul tout là.
0,6 plans par seconde.
Qu'est-ce qu'on peut en.
Qu'est-ce qu'on peut déjà en dire?
Bah on peut en déduire que voilà, c'est une BA, somme toute classique, et somme toute convenue, et somme toute. Voilà.
Eh bien parlons-en alors de la BA. Parlons-en, ouvrons le grand livre du Nord avec cette BA, l'appel de la forêt de Chris Sanders. Chris Sanders, d'ailleurs, c'est marrant parce que Chris Sanders, peut-être qu'on ne l'attendait pas là parce que c'est un réalisateur d'animation. Porno. D'animation qui a commencé chez Disney. Alors, il était en co-réalisation sur Lilo et Stitch. Mmh. Et oui, super Disney. Alors, ça, c'est un autre débat, mais j'adore ce film. Et ensuite, il a retourné sa veste pour aller chez les concurrents.
DreamWorks.
Il est allé chez DreamWorks.
Le travailleur du rêve.
Parce que il a fait quoi chez DreamWorks?
Bah,
Dragon.
Fait,
ouais,
peut-être,
ah ouais.
Peut-être le meilleur DreamWorks.
Ouais,
ce
jeu.
Le plus Pixar des DreamWorks, c'est comme ça que j'aime appeler ce film Dragon. Et il a fait aussi les Croods.
Oui, moins.
Qui était moins bien
moins
quand même.
Moins, hein. Moins foufou. Mais oui, et c'est le frère de Cindy aussi qui est une grande chanteuse.
Oui. Oh là là.
D'ailleurs, son prochain film s'appelle Papillon de lumière.
Non, stop.
Butterfly Light. Et donc, L'appel de la forêt, son premier film live. Mi Life, Mi CGI, c'est ce que nous allons découvrir. Alors la BA, elle s'ouvre sur quoi, les amis ?
Le Yukon est une zone de guerre.
C'est un peu violent.
Sylvester Stallone BA.
Sur le Yukon, ouais.
Ouais, ça a l'air joli, hein. Enfin, le faux Yukon qu'ils ont fait en image de synthèse, ça a l'air sympa.
Mais non, apparemment, il y a de la prise de vue réelle.
Ah ouais ?
Ouais.
D'accord. Oui, bah, peut-être un arbre sur fond vert.
Je pense que dès qu'il n'y a pas le chien, c'est un
si,
vrai décor.
S'il n'y a que Harrison Ford en prise de vue réelle.
Et encore, on n'est pas sûr.
Et encore, on n'est pas sûr. Si, Omar Sy, je crois qu'on sait.
Le Yukon, au cas où vous ne le sauriez pas, c'est une région du grand nord-ouest canadien.
Du Canada.
C'est frontalier voilà. Avec l'Alaska.
Oui.
Et donc très connu pour sa ruée vers l'or, notamment. C'est tout ce que je sais. Ma ouais. Culture.
Très connu pour ses températures négatives, souvent en dessous de zéro.
Et pour le très bon pain d'épices qu'ils font.
Ouais. Et d'ailleurs, on peut aussi la poutine est très bonne là-bas. Hein. C'est,
pas comme en Russie. Alors ensuite, qu'est-ce qui se passe ?
Pas le rebondissement.
On découvre notre Harrison Ford.
Mmh. Oui. Il est bougon. Hein.
Il n'est pas content.
Ouais. Alors pourquoi, Clémence ?
Mais parce qu'il explique, pour se présenter, qu'il a décidé d'aller au Yukon pour fuir la société, les gens. Il en avait marre, il ne voulait plus côtoyer personne.
Bah, excuse-moi, il est un peu con parce que le plan d'après, il est dans un village. Hein.
Oui,
il est Yukon.
Oh là là.
Non, en fait, ça va être long. En fait, l'histoire, c'est qu'il s'est vu dans Star Wars 9 et du coup, il a décidé de s'exiler.
Je suis venu ici pour me retrouver seul.
Ouais, voilà.
C'est ce qu'il nous dit dans cette belle BA. Jusqu'au jour où j'ai posé les yeux sur toi.
Ah, c'est une histoire d'amour.
Je ne sais pas.
Ah non, c'est un chien, putain. D'accord.
Sur qui pose-t-il les yeux à ce moment-là, la belle rencontre ?
Bah, sur un fond vert.
Sur un mec en pyjama noir avec des boules.
Ah, faut trop faire ce film, un mec qui tombe amoureux d'un fond vert.
Sur un beau chien en CGI et peut-être le plus beau rôle d'Andy Serkis jusqu'à
mais
ce
non,
jour.
Mais non, c'est pas lui. Alors c'est qui en vrai, Romain ?
Alors j'ai une anecdote sur ça, c'est Terry Notary. Voilà, parce
c'est
que
Terry Notary.
Le chien, comme vous avez pu le remarquer, hein, je pense que vous n'êtes pas aussi idiot, c'est pas un vrai chien.
C'est pas un vrai chien.
Non, mais pourquoi il joue un chien si c'est Notary ?
Oh !
Terry Notary.
Le chien des mers, Notary, le chien des mers.
J'en peux déjà plus. Et non, Terry Notary, mais on l'a déjà vu, ce mec-là, pas en CGI, non, non, en
oui,
vrai.
Oui, parce qu'il
en
a
muscle.
Une belle notoriété.
Oh là, c'était raté.
J'ai pas compris la direction de la blague, déjà, à la base.
Notarité, il a une belle notarité.
Ah, ok, ouais.
Une bon, belle notarité.
Très bien, il y a des choses qu'il faut garder pour soi. Et non, Terry Notary, hein, comme un notaire, en fait, en anglais, Notary, qui a, lui, performé dans un autre rôle animal, hein, si je peux dire ça comme ça, dans The Square.
Oui, qui avait eu une palme d'or.
Qui a eu une palme d'or, et notamment pour cette scène marquante hein, du film.
Ah, c'est le mec qui fait le singe.
Il fait le singe.
Exactement.
Et apparemment, il est spécialiste en comportement et en mimique animale.
Ok, voilà. Je pensais qu'il était plus spécialisé singe.
Et alors, il fait les singes, et il fait aussi les chiens.
Les chiens.
Ouais, alors, c'est quand même plus dur de faire le chien, parce qu'il faut savoir remuer la queue. Ce qui n'est pas le cas quand on fait le singe. Donc...
N'allons pas plus loin. Non, non, je vous vois.
Non, mais c'est vrai.
Cette blague.
Le premier moyen d'expression du chien, c'est les oreilles et la queue.
C'est pas lui dans Snake, d'ailleurs, le jeu sur 3330, là.
Si, c'était lui.
Ah ouais, je l'ai reconnu.
Incroyable.
Arrêtez-vous, j'ai pas plus.
Bon, bref, Harrison Ford est un ermite. Enfin, quelqu'un qui a plutôt un caractère d'ermite. Et en plus, un peu aventurier, parce qu'il a envie d'aller explorer. Des contrées sauvages.
Qu'est-ce que se passe-t-il ensuite dans la BA, Clémence, toi qui la connais par cœur.
Je suis la consultante. Et ben, alors là, on a une rupture dans la BA, on adopte un peu plus le point de vue de Buck et on raconte son histoire. Alors, c'est son histoire racontée par Harrison. Du coup, Buck était un chien pas comme les autres, assez exceptionnel. Donc on voit qu'il se rétame dans un couloir et qu'il fait tomber un vase.
Pour dire qu'il n'était pas comme les autres, tu vois, juste un chien qui fait tomber un vase. Genre, ouais, il était incroyablement maladroit.
Et puis, non, mais c'est vrai qu'il y a un côté un peu contradictoire parce qu'il dit aussi qu'il était trop gâté. Et à ce moment-là, l'image nous montre qu'il se fait mettre à la porte,
bah oui.
Et puni.
Il est abandonné.
Il habitait une bonne grosse maison. Hein. C'était un chien.
Oui, c'était un chien domestiqué, apparemment.
On est dans une belle famille, à mon avis. D'où le kidnapping qui arrive juste après.
Alors oui, le chien se fait dognapper.
Il se fait dognapper. Ouais. Mais sûrement parce que c'est un chien d'une famille riche, il y avait une rançon à la clé, j'imagine.
Certainement. Tu crois que c'est ça son histoire ?
Bien sûr, c'est sûr.
Non, en fait, c'est,
un chien
c'est une sorte de trafic. Enfin, en fait, c'est un chien qui est quand même exceptionnel dans le sens où c'est un beau chien, de belle race, très fort et tout. Donc à mon avis, il va être ensuite pris comme chien de traîneau, donc il se fait kidnapper pour ça.
Il fait des traîneaux forcés.
Ou peut-être qu'il coûte de l'argent. Parce que c'est un pur race ou je sais pas.
Peut-être qu'à l'époque,
pour aller faire des concours.
Peut-être qu'à l'époque, la SPA venait chercher des chiens comme ça. Hein.
Sans te prévenir.
Sans te prévenir.
Votre chien est à nous.
Et c'est quelle race de chien, vous savez ?
C'est un mélange entre un... Enfin, c'est un chien en image de synthèse déjà, mais c'est censé être un mélange entre un Saint-Bernard et un Scottish, je sais pas quoi.
Non, un collet écossais.
Un collet écossais.
Ouais, bah, c'est ce que je te dis en anglais, tu vois.
De mais, type CGI.
De type CGI.
De type CGI, ouais.
Pure race, ouais, CGI, CGI.
Ça reste un bâtard.
Et alors là, CGI, et vas-y qu'on y va. Et vas-y qu'on envoie du CGI.
Vas-y qu'on y va.
Vas-y qu'on y va sur les CGI. Hein.
On ne lésine pas sur les CGI là, dans la production.
Il y en a beaucoup. Hein.
Hein, ils ont même réussi à reproduire Omar Sy. Oui. Alors, plus vrai
ouais,
que nature.
C'est super bien fait.
Et on est sûr qu'il n'était pas sur le tournage parce qu'il était occupé à tourner un autre film.
Lequel ?
Je ne sais pas.
J'ai cru que t'allais inventer un titre.
Je me suis trop avancé dans une blague. En fait, j'ai vu que j'avais pas de chute.
Non, mais s'il est dans Le Prince oublié en plus en ce moment là.
Oui.
Et en fait, ce qui est marrant avec Omar Sy, c'est qu'on le voit pas pendant un moment. Et puis d'un coup, il débarque dans 8000 films. Et après, il va refaire une petite pause. Et puis il redébarque dans 8000 films.
Bah, mon ami, on ne va pas le voir longtemps. Hein.
Arrive le moment dans ta vie où tu reçois ta déclaration d'impôt là, tu sais. Ton c'est avis d'imposition. Et du coup, tu refais des films.
C'est le moment où il faut tourner.
Le papier avec Marianne là, le cauchemar.
Et qu'est-ce qui se passe ensuite dans la bande-annonce ? Alors là, le voyage. Hein.
Ouais, alors pas tout à fait. C'est-à-dire que on voit quand même, vous ne l'avez pas dit, mais que Buck va vivre des sales choses. Il va être enchaîné,
enchaîné dans un
sous-sol.
Bateau,
dans un bateau.
Ouais.
Ah, je n'ai pas capté ça. Mmh.
Et donc on le voit qu'il s'évade parce qu'on a la voix d'Harrison qui dit « Il ne peut pas être brisé ».
Ouais, on le voit briser ses chaînes et remonter à la surface.
Ah, c'est un chien esclave. Mmh.
C'est Schwarzenegger le chien.
On voit briser ses chiennes.
Yep. Et ensuite l'aventure. Alors
oui, donc voilà, il s'évade et il tombe sur Omar Sy qui lui dit mais qu'est-ce que tu fais là ?
Non, il lui dit pas ça.
On sait pas d'où tu viens, mais t'es là.
Il lui dit je sais pas d'où tu viens, mais je sais où tu es, ce qui est assez évident.
Tu es ici.
Ça fait sens.
Mais selon vous, c'est qui Omar Sy ?
Ouais, je pense que c'est un mec qui vend du poisson.
Un mousse. C'est un mousse.
Oui.
Je sais pas.
Non, c'est ça. C'est un mousse. Oui, je pense. Ouais. C'est un mousse parce que à ce moment-là, dans la BR, on voit un bateau, on voit que c'est le voyage justement. Alors, je sais pas où finit le chien dans sa maltraitance parce qu'il y a forcément un moment où ça finit bien.
Il a pas l'air très abîmé le chien en même temps.
Il va rencontrer des hommes qui sont bienveillants à son égard. Hein. Il va rencontrer d'abord Omar Sy, ensuite
qui est très gentil.
Harrison, qui est très gentil, oui. Et là, l'aventure, hein, le chien, nouvelle vie quoi. Il est passé de gâté à emprisonné, à chien maltraité, à chien voyageur.
Chien libéré.
Une vie de chien.
Une vraie
c'est un peu le Forrest Gump des chiens.
Et donc, ils rencontrent
l'appel de la
vraiment
forest.
Pour le coup. Bon,
Pas mal.
2 sur 10.
Déroulement de cartes dans la BA parce qu'il a retrouvé Harrison Ford et Harrison Ford a un plan derrière la tête.
Ouais, non, mais c'est dingue parce que t'as le chien, il regarde la carte, genre il sait lire les cartes, le chien.
Peut-être,
il est vraiment extraordinaire.
Et c'est peut-être son don, hein, tu sais pas.
c'est pour ça qu'ils l'ont kidnappé.
C'est peut-être lui qui avait fait la carte, il est chien cartographe.
Peut-être.
Là, on sait pas.
Là, il y a une erreur sur cette montagne. Elle est beaucoup trop grande, elle n'est pas à l'échelle. Merci, Buck.
Il prend son compas, il commence à faire les trucs.
Direction le sud-est. Le nord-ouest, tu as raison. Allons-y tout de suite. Et donc, ils y vont.
Oui, puis Harrison lui dit, est-ce que tu es prêt à aller jusqu'au bout du monde ?
J'ai une question. Est-ce qu'à ce moment-là de la bande-annonce, vous avez compris la quête ?
J'ai rien compris.
Parce
moi,
que
à la
pour
bande-annonce.
L'instant, on est d'accord que Harrison Ford dit qu'il veut quitter la société.
Mmh. Oui.
Ouais.
Ensuite, on a l'histoire du chien. Et du coup, qu'est-ce qu'ils fabriquent au fait ensemble ?
Bah, ils veulent aller au bout du monde. Il l'a dit.
Ouais.
Pourquoi ?
Ils veulent aller voir. On a l'impression qu'ils veulent aller voir des terres inexplorées.
Mmh. Peut-être.
C'est peut-être l'appel de la forêt.
Sans doute.
Oui, le titre nous donne un indice. Il y a une forêt au bout du chemin.
Donc, il faut y aller.
Rien n'a peut-être à relier avec justement la ruée vers l'or. Non ?
Ah.
Vous pensez pas qu'il y a une histoire comme ça ?
En fait, on est sûr que c'est un trappeur ?
J'ai dit trappeur parce que pour moi, c'est ce que ça évoque dans la bande-annonce, mais je ne sais pas, non, en fait.
C'est peut-être un chercheur d'or ou
Peut-être
qu'il veut vraiment juste trouver un coin où être tout seul. Et c'est ça sa quête.
Ouais. Il y a toujours ce putain de chien qui le suit partout. En fait, il l'aime pas.
Il follows.
Au moment, il est là, mais laisse-moi tranquille.
Mais vu comment est amenée la bande-annonce au début avec Harrison qui dit qu'il veut être seul, moi, je me suis demandé si c'était pas son ami imaginaire, en fait.
Jojo Doug.
Ah, on est encore dans les amis imaginaires.
Non, mais après, on sait que non, parce qu'en fait, c'est adapté d'un livre de Jack London. Mais
ça expliquerait pourquoi il est en image de synthèse et pourquoi il sait faire des cartes.
Hein. C'est peut-être une réinterprétation du roman.
C'est à la fin du film, t'as un flou comme ça où on découvre qu'en fait, c'est un hôpital psychiatrique. T'as Harrison Ford, il est dans un coin en train de manger son caca.
Vous avez encore appelé votre caca, Buck.
Oh. Ou t'as la fin encore pire, c'est au fait, t'as le truc qui se défloute comme ça et au fait, c'est un rêve. Tu sais, et le gars il sursaute, il se réveille en sursaut. Genre, Oh là là.
En fait, il habite à Bourgoin-Jallieu.
Ah, si ma vie pouvait être comme mes rêves. J'aimais trop la vie. Et donc, en fait, la BA va continuer à nous montrer des spectacles.
La BA va nous montrer des spectacles de la nature, des péripéties
dans la nature.
Alors, première péripétie, c'est la neige.
Ouais.
Découverte pour
Buck. Ouais, le chien découvre de la neige. Et même, il y a un effet de strabisme en 3D sur les yeux du chien qui est incroyable. Bravo.
Et ils ont dû modeler chaque flocon et ça a pris 4, non, j'en sais rien.
Ça a pris 4 heures par flocon.
Et un très beau plan sur un loup.
Un loup noir de toute beauté.
Qui, oui, fait penser, tu le disais en antenne, Clémence, à ce fameux plan dans Fantastic Mr. Fox. C'est exactement le même, presque, sauf que la patte en moins levée.
Et pas quelle magnifique créature.
Black Wolf, Panther en moins. Et là, bad move du chien, qui est en pleine course de traîneau, et bim, avalanche. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il fonce vers l'avalanche.
À la Mad Max Fury Road.
Tu comprends pas, il a compris qu'avec l'énergie cinétique de l'avalanche, en courant à une certaine vitesse, avec la glissade sur la glace, il pouvait passer au-dessus de l'avalanche. Il est super malin.
Un chien physicien.
S'il faut, c'est ça le film. Au fait, il a inventé un move de chien de traîneau.
Ça se trouve.
C'est nul comme intrigue.
Je n'arrive pas à franchir cette étape.
Ouais, mais du coup, on peut imaginer qu'il y a quand même ce loup, il n'est pas là pour rien. Il y a peut-être une rivalité qui existe avec ce loup. Et là, on ne le voit pas beaucoup dans la BA, mais dans le film, certainement, il y aura lutte.
Tout à fait.
Ou alors, c'est une louve, il veut juste s'acoquiner. Moi, je dis acoquiner, je trouve ça plus.
Peut-être qu'il veut le retrouver, c'est un pote ou une.
Oui, non, mais en fait, le loup représente le côté sauvage, la part sauvage de Buck.
Du chien, ouais.
Et le guide, à mon avis, le guide à travers cette immensité. Sauvage.
Bah, c'est peut-être lui qui lui a préféré des cartes.
Non, mais parce
tu
que
vois Buck.
Il faut quand même dire aussi qu'il y a des cartons de texte qui disent êtes-vous prêt à retrouver votre instinct. Donc c'est ça là, le sujet.
Ouais, ça parle justement du fait de partir de la société pour redevenir sauvage.
D'accord, mais à ce moment-là, les cartons s'adressent à nous.
Oui,
donc, oui bah, comme Buck quoi.
Donc t'es prêt,
qu'on s'identifie.
Est-ce que t'es prête toi Clémence à retrouver ton instinct? Demain, hein. On verra
demain. Non, pas trop. Je compte décider de commencer une pizza ce soir, je sais pas.
Qu'est-ce que tu fais lundi en 8?
Non, c'est pas vrai.
Ok.
Alors, parmi ces péripéties, rencontre de Pocahontas.
Oui. C'est pas Pocahontas, c'est une Inuit.
Ah, autant pour moi.
Ou une Esquimau, je ne sais pas la différence entre ces deux peuplades.
Une amérindienne.
Pêche dans la glace. C'est ce que j'ai compris.
Moi, ce qu'ils font en général.
Elle fait un trou dans la glace. Sauf que. Ça tourne mal et il y a quelqu'un qui tombe. Est-ce que c'est elle? Je sais pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui tombe dans l'eau gelée et la Buck n'écoute que son courage et fonce?
Ouais, je crois que c'est elle. Je crois qu'elle a mal calculé la rigidité de la glace. Ouais. Ça peut arriver. Hein.
Alors que Buck la calcule toujours très bien comme il est physicien. Physicien ah.
Et dans les autres péripéties, alors que pourrait nous proposer comme danger justement cette forêt qui nous a appelés et dans laquelle on s'est engouffré sans même
des chutes
savoir.
D'eau. Des chutes d'eau très très dangereuses.
Des chutes d'eau très très dangereuses.
Des ours.
Au programme, ours, chutes d'eau très dangereuses.
Tout ce qu'il y a dans The Revenant.
Oui.
Des bûcherons méchants.
Des gens qui prennent la peau là, des trappeurs.
Des trappeurs.
Oui.
Des
peaux rouges.
Des Pocahontas.
Tout ce qui est méchant dans la nature, donc des crocodiles.
des
anacondas.
Il y a des lions, des jaguars, il y a tout.
Et justement, on peut voir qu'ils ont tourné avec des animaux réels. Alors ça, c'est une anecdote qui est complètement fausse sur le film.
C'est ce que j'allais dire. Ah bon.
Et tous les animaux font fake dans cette BA.
Totalement. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ces CGI qu'on
Ça coûte moins cher que de faire travailler un dresseur d'ours.
Tu penses? J'en suis pas convaincu.
Oui, si, un dresseur d'ours, ça doit
être cher.
Ça coûte
cher, un dresseur d'ours.
Moi, je pense que là, il y a un gros studio qui a genre des patterns d'animaux à caser dans tous les films. Parce qu'en fait, là, il y a Dr. Dolittle qui sort, où c'est pareil, c'est le zoo. Tous les animaux sont sortis en CGI. Et là, c'est la même chose. Donc, je me dis, il doit y avoir des vieux tiroirs avec des... Hey, t'as pas besoin d'un ours dans ton film? Ah bah oui, tiens.
Ça tombe bien,
j'en ai fait. Ça se passe dans le Yukon.
Ah, ça expliquerait pourquoi ils ont ajouté un cerf aussi, un endroit qui a l'air totalement inutile, mais fait en CGI.
Ouais.
Mais
après,
ça sert à rien.
Ouais, est-ce que c'est pas parce que, justement, avec les débats antispécisme et tout, est-ce qu'on a... encore éthiquement, on peut faire jouer des animaux?
Ça, je ne sais
pas. Ah, non, mais c'est vrai que quand il s'agit d'animaux sauvages comme un ours, effectivement, c'est plus apprécié aujourd'hui d'utiliser un subterfuge cinématographique plutôt qu'un vrai animal.
Et nous avons pourtant vu des films dans le passé qui utilisaient des vrais animaux. Et...
Les Misérables.
Les Misérables.
Ah oui, dans Les Misérables, ouais. Il y a l'histoire avec le lion.
Oui, dans
c'est
Les Misérables, il y a le lion, c'est plutôt bien foutu. Bon, après, c'est pas les mêmes circonstances. Là, on parle vraiment de grands, grands terrains sauvages, d'animaux vraiment sauvages. Mm. Non, je pensais bêtement à des films comme Danse avec les loups.
Mm. Ouais.
La patte blanche.
Et tu connais un film qui s'appelle Roar?
R-O-A-R.
Ouais. Et ben c'est des mecs, ils ont décidé, tiens, et si on allait faire un film avec des lions non dressés, sans dresseur. Et tout le monde a dit oui, y compris la prod. Et c'est considéré comme le tournage le plus dangereux de l'histoire du cinéma. Il y a eu au moins 17 blessés. Et parce que les mecs sont fous, quoi. Ils étaient dans une réserve avec des lions.
Ouais, ils avaient un ranch, en fait.
C'est ça, et pas de dresseur, rien. Et les gars, ils tournaient à la sauvage comme ça, et les lions les attaquaient pendant les prises.
Sérieusement, c'est vraiment.
Ouais. Tu trouves la documentation dessus.
Elle a été blessée sur le tournage.
Ah, il y avait Mélanie Griffith,
elle était très jeune, c'est un de ses premiers tournages, et c'est n'importe quoi. Tu vois, moi, j'ai vu le making-of, ils sont avec des lions, mais genre, les lions, tu sais, ils veulent faire des câlins, mais avec les griffes dehors, quoi.
Elle s'est fait bouffer, Mélanie Griffith.
Elle a été blessée.
Elle a été griffée, je crois.
Ah, Mélanie Griffith.
Exactement. Oh ah, je suis contente, t'as compris.
Bon, on a blague. Vu le contact dans nos yeux. Toi-même, tu sais.
Je me disais pourquoi il répète comme ça.
Alors, pour résumer, oui, on l'a déjà dit, mais en février, trouvez le courage de suivre votre instinct. Bim, 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 bam. Action, action, action dans la BA. Beau plan CGI, beau plan. Il se retrouve face à un très beau paysage qui, à mon avis, en tournage, devait être très simple. Hein. Parce qu'on voit de dos Harrison Ford et son chien qui remue la queue à ce moment-là, comme quoi il y a du beau boulot sur la queue quand même. Face à un très, très beau paysage sauvage, inexploré peut-être à ce moment-là de l'histoire, mais qui clairement est fake.
Donc, j'imagine
un pauvre Harrison Ford sur un fond vert, tout seul sur un plateau. Action ! Alors là t'as des fleurs, là t'as des abeilles, bim un ours, clac, clac.
Les abeilles du Yukon.
Buck, et puis c'est parti, l'appel de la forêt, le titre. Et petite blague, évidemment, comme toujours, hein, qu'on aime bien voir pour conclure les
blagues. C'est une blague super.
C'est non
super
mais blague. C'est une relation forte, on voit des petites parties d'émotion glissées dans la BA où Buck met sa tête sur l'épaule d'Harrison
devant
un clair de lune.
Justement.
C'est ça où tu vois que finalement l'animal est peut-être plus fidèle que l'homme.
Ouais, parce qu'il suit son instinct.
Et ben on découvrira tout ça le 19 février au cinéma et c'est comme ça que se conclut cette BA.
Cette émission, j'ai oublié d'aller dire. Salut, au revoir.
On a encore un peu de chemin, nous. Le 19 février au cinéma. Est-ce que ça vous donne envie de le voir, Kevin? T'as envie de voir ce film?
Non. je te dis clairement.
Une réponse claire et honnête.
Non, mais ça, je sais pas, ça m'intéresse pas en fait. C'est pas que ça a l'air spécialement mauvais, c'est juste que ça a l'air sans intérêt en fait, enfin de mon point de vue, enfin pour moi-même. Donc non, j'ai pas spécialement envie de le voir, mais bon, je suis obligé d'y aller.
T'as pas le choix. Johanna.
Non plus, ça me donne pas du tout envie parce qu'en regardant cette bande-annonce, je ne comprends pas de quoi ça parle et je ne comprends pas la quête. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui tourne dans le vide et ça ne m'intéresse pas.
Clément.
Oui, pareil, je n'ai pas très envie. Y a un peu un mystère, effectivement, sur de quoi ça va parler, qu'est-ce qu'ils cherchent au juste ces deux personnages. Après, j'espère que ce sera au moins beau et divertissant. Voilà, il y a un bon chef-op, il y a un bon réal. Peut-être que ce ne sera pas un si mauvais moment que ça.
Et toi, Clémence ?
En fait, la BA en tant que telle, je la trouve un peu neuneu. Mais comme c'est le livre de Jack London et que du coup, je ne l'ai pas lu, mais m'étant re-renseignée dans le livre... Normalement, le trappeur, il meurt et Buck va se venger et tuer des gens pour se venger. Bah, j'ai envie de voir s'ils l'ont fait, donc je suis très curieuse quand même.
D'après le célèbre roman, qui s'appelle aussi L'Appel de la Forêt, de Jack London, qui nous a aussi fait...
Gros blanc.
Voilà.
Plein de trucs.
Qui est un grand écrivain sur...
Imagine, ça finit en gros slasher là, avec le chien qui bute tout de suite.
Tu vois, son ombre, c'est sur la banquise.
J'ai été gentil, maintenant vous allez chier.
Et toi, Romain, t'as envie de le voir?
Avec cette BA? Non.
Ok.
Rapide, efficace.
Non, mais on fait cette BA parce que bon, on avait envie de faire un petit truc détente pour rigoler. Et puis c'est marrant quand même de revoir Harrison Ford continuer de jouer ses rôles d'aventurier comme ça, de le revoir un peu sans le fouet, sans le chapeau, sans la veste en cuir, mais avec un chien, oui, pourquoi pas. Par contre, non, moi, ce qui m'énerve un peu dans cette BA, c'est que ça annonce du gros CGI, et je suis pas un gros fan de ça, surtout que je me dis qu'un chien, c'est facilement trouvable aujourd'hui, hein, un dresseur de chien, c'est facilement trouvable aujourd'hui. Alors peut-être qu'après, les actions du chien sont peut-être pas possibles, mais ils auraient pu au moins faire un mix, quoi, d'avoir un vrai chien et puis une doublure CGI pour les actions. Mais écoute, apparemment, il y a un gars qui était en costume derrière pour faire le chien. J'ai bien envie de voir ce que ça donne.
Ouais, moi, je me demande si c'est vraiment un film pour gosses ou si on va quand même y trouver quelque chose.
Bon, c'est quand même Disney. Hein,
c'est un film familial.
Familial, voilà.
Donc oui, là, bah, un film familial en fait, hein, parce que c'est l'adaptation de Jack London qui nous a fait gros blanc, hein, on l'a dit. Mais donc c'est pas la première adaptation par contre, c'est un film qui a déjà été adapté.
Un livre, tu veux dire.
Oui, apparemment, d'après les anecdotes hallucinées, par rapport aux autres adaptations qui avaient déjà été faites, là on adopte plus le point de vue du chien, plus que des humains. Donc
pour,
voilà.
Pour celui-là ?
Ouais.
Ah, peut-être pour ça le CGI alors. Peut-être que ça permet de s'infiltrer.
Oui, je pense qu'ils ont, ils ont voulu un peu l'humaniser, ce chien. Faudra voir comment ça rend.
Oui,
quoi.
Parce qu'il est très expressif dans la
bah ouais,
il a des expressions presque humaines à un certain moment.
C'est sûrement le côté, bah, l'héritage du film d'animation de Saunders, quoi.
Et puis, en termes de relation homme-animal, du coup, quand on voit Dragon ou Lilo et Stitch, il y a quand même de l'émotion dans ces films-là. Donc, peut-être qu'il aurait réussi aussi à nous toucher dans celui-là, entre Harrison et Buck.
Non, mais là où ça se discute plus, je trouve, c'est même pas au niveau de l'aspect du chien ou des animaux. C'est est-ce que ça va marcher en incluant ces modèles d'animaux-là avec des acteurs réels. Et je sais pas si c'est un bon choix. À la limite, il aurait peut-être pu faire juste un film d'animation, limite, entre guillemets, photoréaliste.
J'avoue.
Et peut-être que ça aura pu rendre plus cohérent à l'écran, en tout cas.
Bon, de toute façon, il est en concurrence avec Pierre Lapin, donc ça va.
Ouais.
Ah oui, c'est vrai, d'un autre côté, il y a les lapins aussi. Oui. Très animal en ce moment, là, les sorties ciné.
Oui.
On en reparlera le 19, à partir du 19 février, quand on ira voir le film à ce moment-là, L'Appel de la forêt, avec Harrison Ford, Omar Sy et un chien en CGI. Pourquoi pas, on verra. Dubitatif en tout cas, peut-être que le titre aussi vous laisse dubitatif.
On peut trouver mieux, hein.
L'appel de la forêt.
On n'a pas vu de forêt en plus.
On en a vu plus.
Tu rigoles,
plus qu'un peu.
Bon,
mais
ok, d'accord.
Trouvons un nouveau titre, nous, à ce film.
Fais ton titre, fais ton titre, fais ton titre, fais ton titre, fais ton titre.
Fais ton titre qui nous permet, nous, de redonner un titre au film de la semaine. L'appel de la forêt, c'est moyen bof. Qui a un nouveau titre ? Qui a des titres dans sa besace à nous proposer pour remplacer ce titre-là nul ?
Moi, j'en ai deux.
Allez, vas-y, envoie.
Omar Sy G.I.
Ah !
Si jamais, par exemple, c'est un soldat. C'est un jeu de mots. Et Les Aventuriers de l'Arbre Perdu.
Pour en référence à
Indiana Jones et à la forêt.
Yes.
C'est beau, c'est joli.
C'est pas mal.
Johanna, tu as des titres ?
Non. Je vais te proposer l'APL de la forêt. Il quitte sa maison pour aller dans la forêt.
Oh, génial.
Ça, c'est marrant, ça.
L'APL de la forêt.
Clémence ?
Non, franchement, j'ai rien d'aussi bien parce que je juste pensais au début en voyant Harrison Ford à les ravages de l'âge. Mais...
mais c'est terrible.
Mais c'était violence. Dans l'idée qu'il avait un chien ami imaginaire et qu'il perdait la vie.
En février, retrouver Harrison Ford dans le dernier film de François Ozon. Les ravages.
C'est vieillophobe, je suis désolée.
J'ai rontophobe.
Un film où tu le vois galérer toute la journée avec mal aux genoux, mal aux hanches.
Il essaye juste d'aller d'une pièce à une autre de sa maison.
En stana.
L'appel de l'arthrose.
Kevin, des titres ?
Ouais, j'en ai un.
Vas-y.
J'ai CGI, 2 points, chien graphiquement irritant.
Oh ! C'est pas mal.
C'est pas mal. C'est pas mal. Mais je sais pas si ce sera aussi bien que moi.
Oh !
Oh là là, il va nous balancer un truc.
Alors moi, j'ai réfléchi, évidemment, hein, comme à chaque fois, en prenant le film, en le regardant sous tous ses angles.
Oh,
enfin,
je le sens mal.
Préparez-vous. Chers auditeurs, préparez-vous.
En analysant le casting, en analysant le contexte, en analysant ce que ça
nous raconte. Comment ça se justifie, ces mauvais signes.
Et donc, tout simplement, pour faire référence au grand Harrison, j'aurais appelé le film, pour faire référence à un ancien rôle culte, j'aurais appelé ça Anne versus Wild. Voilà.
Anne
versus
non,
Wild. Mais comment ça, non ? Vous rigolez ou quoi ?
Mais c'est pas drôle.
Mais c'est pas une question d'être drôle, c'est une question d'être
non,
fin et
faut
subtil.
Faut trouver autre chose ou Harrison versus Wild.
À la limite, t'aurais dit Doug,
ah oui, Anne parce
Doug
que Man.
Versus Wild.
Non, Anne solo.
Anne
mais...
versus
ouais.
Wild avec Harrison Fjord.
Oh, Harrison Fjord, c'est bien,
ça me plaît.
Bon, il n'y a pas du tout de fjord au Canada, je crois, mais c'est pas grave.
Non, il n'y en a pas, c'est plus en Norvège.
Je sais, les noms d'acteurs, on pourrait mettre Harrison Fjord et Omar Sy G.I.
Ah oui !
Ouais.
Et en notre
titre alors ?
En notre titre, j'avais pour faire référence à un autre film de chien très connu, inspiré d'un nom de compositeur aussi très connu. J'aurais appelé ça, vu que ça a l'air d'être le film ultra nature et tout, j'aurais appelé ça Beethoven.
Oh non !
J'avoue, j'aime bien.
Il y a tellement tout dans ce titre.
C'est pas choisi.
Ah non, moi j'ai kiffé Beethoven.
Ça sonne bien, ça sonne.
Franchement,
bien.
C'est assez drôle.
Tiens, je gardais Beethoven genre en mode comme ça pour.
Non, c'est drôle.
Je pensais que vous alliez être épaté par Anne versus Wayne.
En fait, j'imagine avec la gueule de l'affiche avec Harrison Ford et tout Beethoven. Je trouve que c'est assez ultime.
Bah, Beethoven, c'est bien.
Harrison Ford et Omar CGI, franchement, c'est pas mal.
Bah écoutez, le public a voté, alors très bien. Bah ce sera ça.
Bon, il n'y a aucune référence au chien dans
c'est
le truc.
Beethoven.
Mais...
Bah si, Beethoven.
Ah mais oui, mais j'avais pas capté.
Allô Clémence.
Je pensais que Beethoven.
Bonsoir
le vent.
Non mais Clémence, elle est plus intelligente que nous, tu vois. Elle n'est pas dans la strate où nous on est, on se comprend, tu vois. Mais là, nos jeux de mots, ils sont trop rigolos. Clémence, mais de quoi parle-t-il enfin Qui sont ces gens? Mais que fais-je?
Et tu l'écris comment du coup?
Bah comme ça se prononce.
Au vent.
D'accord.
Beethoven.
Beethoven. La bite est mon couteau au vent, quoi. La bite au vent. Avec Harrison Ford et Omar Sy.
Oui, bon, alors les gens écoutaient bien pour savoir que c'est par rapport à Beethoven, parce que c'est pas évident.
Bah déjà, c'est drôle, ils vont c'est cliquer drôle. Sur le truc, ils sauront pas ce que c'est au début. Hein. Parce que tu sais, ils voient le titre avant d'écouter.
Merci pour cette intervention.
Alors, oui, figurez-vous,
je tenais à vous le dire.
Je connais des gens qui ne regardent pas notre affiche parce qu'ils veulent pas se spoiler le titre.
Ah
qu'on a trouvé. Donc il y a quand même des gens qui
sont
fans.
Pourquoi on se fait chier à faire des affiches alors?
Mais non, mais ils le regardent après.
Mais,
après
écoutez-moi
l'épisode.
Bien, ceux qui font ça, on vous remercie pas. Non, mais oh.
Mais si,
non, mais
bah,
c'est quoi ce comportement
trop bien, c'est trop bien.
Tant qu'ils nous écoutent et qu'ils mettent 5 étoiles sur Apple Podcast, moi ça me va.
Bah oui, bah vous avez intérêt à mettre les étoiles. Hein. Sinon, on vient chez vous.
Et calme-toi.
On vous tue.
On vient avec le chien en CGI.
Le film
ah oui,
le match
c'est
retour,
une bonne transition
non
pour...
J'ai fait exprès.
Ouais. Alors, transitons vers le match retour. Alors,
of course. Allons-y.
Je rappelle juste le titre du film, c'est Beethoven.
Beethoven.
Dick in the Wind.
Dick
Friends.
In the Wind.
Putain, mais c'est tellement un bon nom de groupe. Je suis un groupe de musique
Dick
j'appelle.
In the
Bonsoir,
wind.
On est les Dick in the Wind.
Génial, j'avoue. Avec Harrison Ford with a dog in CGI aussi. Match retour, dans ce cas-là, c'est l'heure du tea time.
Ok.
Avec The Gentleman de Guy Ritchie.
DJ, get that shit.
Ça te fait mal quand on te tire dessus?
Je ressens les blessures. La douleur est une simple information.
Votre discours était très éclairant.
Très éclairant? C'est du blabla, oui.
T'intéresses à qui? T'intéresses à quoi, toi? Est-ce que t'en as de la considération?
Tu déconnes, non? T'as aucune notion, t'as fait 40 films, t'as même pas assimilé un minimum de technique. T'es nul!
Bienvenue dans le Tea Time, les amis.
Bonjour.
Ça fait plaisir de vous voir aujourd'hui pour parler de mon film The Gentleman. Oui, parce que nous avons Guy Ritchie qui est là aussi ouais, avec nous aujourd'hui. Ah. Oui, merci beaucoup.
Hello, Guy.
Faites à Béa de ma... Salut les gars. Ça fait plaisir de pouvoir venir parler de mon film directement. J'espère que vous n'allez pas trop le démonter.
Ah.
Non, mais je pense que là, il faut mieux que tu t'en ailles, Guy.
Il faut que tu t'en ailles, Guy.
C'est totalement improvisé. C'est nul. Alors, pour vous rappeler un peu ce qu'on avait imaginé, nous, la semaine dernière, en se faisant la BA de Gentleman, l'histoire imaginée accrochait donc les ceintures. Dans un monde où Miramax existe encore et est dirigé par le dirty Philip Barbara, Youth and Charlie jouent à un jeu. Youth Grant hein, va alors raconter l'incroyable histoire du papa de la bœuf, Michel, fils de poire.
J'en ai oublié.
Une histoire dans laquelle il y a un protagoniste et un antagoniste.
Wow.
Youth fait alors comme un vieux pervers du coin de la rue, car en fait, il a un plan. Il veut faire chanter Charlie. Tadam, encore. Et c'est que le début. Il a des infos sur l'infâme trafic de poire de Michel, ce fils de...
Poire.
De pute. Oui, Michel a la classe ultime. Il se la pète limite, mais malgré cela, il va avoir des problèmes avec les Chinois, car ils veulent commercialiser un alcool de poire en mignonnette qui se consomme à la pipette, la piponiette.
Et on est vraiment allé aussi loin.
Et de l'autre côté, des youtubeurs veulent aussi s'emparer du marché de la poire. Mais l'intrigue se complique à l'arrivée d'une femme chaussée de magnifiques loups boudins. Qui loups boudins voient. On sait pas qui est gentil, on sait pas qui est méchant à ce moment-là, parce qu'il y a plein de personnages qui débarquent, dont Colin Farrell qui ramène aussi sa fraise parmi toutes ses poires. Et ce, juste pour faire des vannes de merde. Bref, tout ce millimélo de tarte en poire, alors qu'en vrai, le méchant, c'est William. Poire William.
Oh!
premier héritier de la couronne des Poiriers.
Ouais, ouais. Franchement, une sacrée histoire.
Franchement, j'ai envie de voir ce film.
Sacrée histoire.
Une très belle histoire.
Oui, bon, ça c'était l'histoire imaginée. Elle vend du rêve, je sais, mais il en est tout autre en vrai. Quelle est donc la vraie histoire de la vraie réalité, Clémence? Veux-tu nous résumer?
Oui,
et bon courage. Hein.
Non, ça va aller. On n'avait pas tout faux. On avait faux parce qu'il n'y avait pas de poire en réalité. Michel Fils de Poire se trouve être en fait Michael Pearson, le baron de la drogue, le cannabis en Angleterre. En fait, le mec s'est fait tout seul, il s'est fait une grosse fortune, c'est vraiment le premier trafiquant de marijuana sur le sol anglais, grâce à sa coopération avec des lords, et il a plein de fermes cachées, bref. Et donc, l'histoire commence au moment où il décide de raccrocher et il veut vendre toute son exploitation. Alors, au début, il veut la vendre à un riche juif, et il se trouve qu'à partir de là, Hugh Grant entre en jeu parce que c'est un enquêteur journaliste qui voudrait faire tomber, en plus se faire de l'argent. Et effectivement, il veut faire chanter Charlie Hunnam, le bras droit de Michael Pearson. En fait, il a recueilli toutes les preuves de ça, de ce trafic, du fait que ça va être vendu, machin, nanana. Il a les emplacements des trucs. Et il veut faire chanter avant que ça soit revendu à l'autre. Et puis, il y a aussi le Chinois qui veut acheter lui aussi cette exploitation. En fait, ils veulent prendre la place tous de Michael Pearson et se faire de l'argent. Et puis en fait après il y a plein de péripéties, ça part un peu en live.
Il y a plein de monde en fait.
Et il y a des youtubeurs, oui, effectivement.
Ça, on rigolait, mais c'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment
c'est relié à Internet. YouTubeurs.
C'est le gang de Colin Farrell qui sont des jeunes entraînés pour faire de petits casses et puis qui s'amusent à se filmer et à mettre ça sur YouTube.
Et comme dans la BA, du coup, c'est vraiment Hugh Grant qui nous raconte l'histoire vraiment du début jusqu'à la presque fin. Merci Clémence, oui, c'est un bon résumé. On a bien capté l'essence du film, l'essence de poire. J'aime rire. Qu'en est-il par contre de la douille qui peut-être a existé dans la BA et dans le film, ou inversement? En tout cas, c'est le douille ou pas douille qui va nous permettre de savoir si la BA était fidèle ou pas au film.
Douille, 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 pas douille.
C'était une douille.
Douille, 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 pas douille.
T'es pas une douille.
Le douille ou de padouille qui nous permet de relier l'ABA au ton du film pour commencer, et nos avis viendront ensuite évidemment. Clément, douille ou padouille sur ces deux médias,
l'ABA je dirais film. Que dans ce film, la poire c'est le spectateur.
Waouh.
Parce que c'est une grosse douille. J'ai détesté le film, je vais revenir après dans le détail pourquoi. L'ABA me disait rien, donc est-ce que c'est vraiment une douille? Je sais pas, mais j'ai trouvé le film pire que la BA, donc Pearson's. C'est vraiment absolument affligeant comme film. N'y allez pas.
Pearson n'a rien.
C'est pas bien.
Pardon, j'ai trop demandé.
Ne le dis à Pearson.
Ah putain, ça aurait été un bon titre.
J'avoue, on y pense après.
Pardon, Clément.
Johanna, douille ou pas douille pour toi?
J'ai un aveu à te faire, je n'ai pas vu ce film.
Ah oui, c'est vrai, excuse-moi. Donc, non, tu n'as pas vu le film.
Malheureusement.
Tu en as de la chance.
Malheureusement.
Malheureusement, ça dépend des points de vue.
Kevin, justement, ton point de vue sur le douille ou pas douille?
Oh, bon, c'est pas une douille, hein. Je m'attendais à de la merde, c'était de la merde.
Ok, donc pas douille pour toi. Voilà. Ah, il répond à la question, Clémence.
Ouais, c'est une douillasse confirmée.
Douillasse confirmée. Ben, moi, je suis pas de cet avis du tout, en fait, par rapport à vous. Parce qu'on avait tous détesté la BA, hein. Même en la faisant, on la détestait encore plus, pour vous dire. Mais en fait, je trouve que la BA présente bien le film. Alors, c'était une BA qu'on n'aimait pas, donc ça, c'est clair. Hein. On n'a pas aimé le film, tout le monde. Donc voilà, on n'a pas aimé la BA, on n'a pas aimé le film. Donc déjà, pas douille pour ça.
Oui.
Mais surtout que c'était pas une douille dans le sens où ça racontait vraiment ce qu'allait montrer le film, quoi. Donc une histoire pratiquement incompréhensible avec plein de personnages très Guy Ritchien racontés par Hugh Grant. C'est le film. Voilà. Alors après, est-ce que ça
procure
des choses?
Dans ce sens-là, c'est fidèle, oui.
Oui. Donc pas douille pour ça. Après, douille évidemment sur le côté avis du film, pour dire direct oui, ben c'est un peu bof, quoi, mais on va faire le tour pour savoir un peu ce qu'on en a pensé plus précisément du film directement.
Oui, c'est une douille dans le sens où le film mérite son statut de douille.
Oui, voilà. Oui. C'est le film, et c'est une douille.
Voilà, il faut expliquer qu'il y a quand même deux douilles. Il y a la douille comparative et la douille intrinsèque.
Absolue.
Double douille. Quelle douille t'a le plus plu dans ce film?
Quelle douille m'a le plus plu? Bah écoute, il n'y a rien qui m'a plu en fait dans The Gentleman. Je trouve que j'ai, en fait, ce genre de film, j'ai même pas envie de m'étendre dessus. Je trouve que c'est un film qui est totalement ringard. On dirait que ça a été réalisé par un ado de 15 ans attardé, en fait. Ouais, je vais faire des gangsters trop badass avec des trafics de drogue, et puis ça va être trop bien. Et puis je vais mettre des mecs qui savent trop bien se battre parce que c'est cool. Et puis tiens, comme j'ai pas d'histoire à raconter, j'ai qu'à faire une narration hachée, comme ça les gens croient qu'il y a des trucs dedans, c'est génial.
Sauf qu'elle est à chier, là.
Et c'est à chier. Et puis en plus, je trouve qu'il y a quand même un côté extrêmement prétentieux parce que. Hugh Grant raconte effectivement l'histoire du film, c'est que c'est Hugh Grant qui voilà, pour expliquer son plan et donc sa manœuvre à Charlie Hunnam, va en gros raconter ce qui s'est passé antérieurement, et il le fait sous la forme d'un scénario. Il arrive, il fait tiens regarde, j'ai écrit un scénario, tu vas voir, je te raconte toute l'histoire, et puis ça va être filmé en 2,35, c'est énorme.
Il y a tout un passage où il explique le format
que,
des films.
Je trouve que ça c'est hyper prétentieux, genre Guy Ritchie croit qu'il fait du cinéma, mais non frère, je suis désolé, tu fais de la mauvaise vidéo YouTube de 1h30 quoi.
Voilà. Ça pique hein.
Voilà mon avis.
Je suis d'accord.
Ça tombe bien parce qu'on a invité Guy Ritchie.
Oui, bonjour. Je n'ai pas vraiment quitté l'appartement depuis tout à l'heure. J'ai écouté un peu et les larmes coulent sur mes yeux. Je vais retourner faire Aladdin quand ils ont lancé la suite.
Aladdin 2. Aladdin.
Ça fait mal ce genre de critique. Tu pourrais presque intégrer le masque et la plume pour ce genre de choses, mais t'es trop pertinent pour ça.
Non, je suis pas été assez raciste.
Oh putain,
alors
ça balance.
Alors que le film est méga raciste.
Le mot c'est que le film est raciste, mais je vous laisse développer.
Clément va développer d'ailleurs.
Je vais développer parce que moi j'ai très envie de parler de ce film. J'ai bien envie de me le faire. C'est un film catastrophique, autant sur le plan esthétique, mise en scène, jeu d'acteur, alors qu'il a quand même un casting qui est 3 étoiles. Je trouve que Jeremy Strong, là, que je connaissais pas, le mec avec les lunettes, est particulièrement mauvais. C'est le festival du cabotinage dans tous les coins. C'est pas bien filmé, contrairement à ses premiers films. Moi, ça m'a grave surpris, quoi. Il n'y a pas du tout les effets de ralenti qu'il y avait avant et tout. C'est que de la frime. Et en fait, je trouve que ce film, c'est du faux cool. C'est-à-dire que c'est un mec qui croit que ce qu'il fait, c'est cool. Et en fait, c'est cool peut-être dans les années 2000, sauf qu'il n'a pas du tout réactualisé son cinéma. Ça réactualise pas les codes du film de gangster et ça les. C'est pas non plus un bon film de gangster, donc ça se situe nulle part. Et surtout, moi, ce qui m'a gêné terriblement, c'est le fond du film. C'est un film qui est putain de réactionnaire, c'est masculiniste au possible. C'est des mecs qui font que de dire ouais, je mets mes couilles sur la table, je sors mon flingue, je fais comme ça et tout. C'est le genre de film où, au lieu de dire le rédacteur en chef va adorer ton article, ils disent il va faire de la crème dans son slip. Enfin, tu vois, c'est vulgo, c'est ultra vulgo. S'il y a une scène avec une truie qui est scandaleuse, enfin, c'est vraiment, c'est, pour moi c'est chier à la gueule du spectateur. Sincèrement, je comprends pas les bonnes critiques que j'ai lues comme quoi il se renouvelle et tout. Non, pas du tout quoi. C'est du Guy Ritchie parodié en moins bien et plus actuel. Et alors, sur les femmes, j'en parle pas parce que il y a un personnage de femme, alors ouais, elle est cool clair. Parce qu'elle tue des mecs, mais elle les tue avec un petit flingue doré, parce que tu vois, faut pas déconner non plus, c'est une femme. Et le dernier truc qui me gêne terriblement, c'est sur Miramax, mais je n'ai pas compris
alors,
ce truc.
Alors ça, il y a une espèce de truc méta un peu.
Est-ce que ça existe toujours, Miramax? Je crois pas. Parce que, il faut le dire, c'était le studio donc, des frères Weinstein. Et à la fin du film, Hugh Grant va pitcher le scénario de ce film à Miramax Film. Tu te tapes carrément le fronton avec écrit Miramax et tout. C'est carrément pour faire un doigt... Enfin, moi, je l'ai pris comme ça. C'est un doigt d'honneur pour dire, moi, le mouvement MeToo et tout, je m'en bats les couilles, je fais un film de mecs et allez vous faire voir.
Et le
votre
producteur, d'ailleurs, ressemble un peu à Harvey
Weinstein. Il ressemble
à
Harvey Weinstein, de ouf. Et moi, ça... Mais quand j'ai vu ça, sincèrement, c'est rare. Là, j'ai vraiment eu envie de partir, de quitter la salle, parce que je trouve qu'autant sur le fond, sur la forme, c'est vraiment un film qui est dégueulasse, quoi.
Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, Clémence, de ce film ?
Ouais, bah, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Alors, en fait, je serais même pas au niveau de l'énervement face à ce film ou du dégoût. C'est juste que ça me laisse totalement indifférente. J'ai eu le sentiment de voir un film qui ne m'intéresse pas et que je trouve totalement inintéressant aujourd'hui, justement dans ses messages. Parce que, typiquement, que ce soit un film de mecs, je veux dire, ce genre-là, on peut encore en faire si on veut, avoir un film avec beaucoup de mecs, pas beaucoup de femmes et des gangsters qui sont principalement masculins. Mais... le truc, c'est que tout le film te dit que être cool, c'est écraser les autres. C'est recueillir le plus d'argent, se faire le plus d'argent sur le dos des autres et en les écrasant. Et ça commence par ça, Matthew McConaughey qui se pose dans le bar pour boire sa bière et qui se la joue trop en mode « je suis trop fort, je suis trop beau, j'ai ma meuf, elle est prête à me rejoindre ce soir à l'heure que je veux » et tout. Nanana. Et ça se termine sur ça d'ailleurs, ouais. Le gars, donc ce mania est resté le plus fort, il a réussi à niquer tout le monde.
C'est le lion.
Et à la fin, sa femme vient le voir et il dit « est-ce que t'as envie ce soir ?» et elle ferme la porte. Après avoir eu un magnifique plan en pied d'elle dans sa petite jupe, voilà, et lui est vautré dans son canapé, il dit « est-ce que t'as envie ?» Et voilà, ça résume le film. Je trouve ça ridicule, c'est pathétique en fait, c'est totalement ringard, ouais. Et puis, comme tu disais, Clément, ça manque de respect sur plein d'aspects vis-à-vis des femmes, vis-à-vis des animaux, vis-à-vis des Asiatiques, Chinois, des Noirs et tout, même à d'autres moments. Et il y a une scène qui résume cette manière de penser, c'est quand Colin Farrell insulte un de ces mecs qui est noir, justement, et que l'autre s'insurge en disant « mais t'es raciste ». Et il lui répond « mais non, je suis pas raciste, c'est contre toi, en fait, c'est toi que j'insulte, ouais, parce que t'es nul ».
Carrément ses
blagues.
Mais
je trouve ça débile, parce qu'en fait... On a l'impression que Guy Ritchie cautionne ce qu'il fait en disant « ben non, c'est pas du racisme, c'est juste qu'on insulte les autres si on veut quand ils sont nuls ». Mais en fait, ce n'est que ça, ce film, c'est juste du manque de respect les uns vis-à-vis des autres, aucune empathie les uns vis-à-vis des autres.
En plus, cette situation est dégueulasse, parce qu'en gros, l'insulte, c'est espèce de con noir, si je traduis. Et Colin Farrell lui dit « bah en même temps, t'es noir et t'es con, donc c'est cohérent, tu vois ». Et c'est vraiment très très faible pour justifier
Et puis le dernier truc débile, justement, ils veulent tous se faire le plus d'argent, c'est ça le but ultime, sauf pour le héros, entre guillemets, qui est le plus fort, pour qui, au-dessus de l'argent, il y a sa reine.
Sa femme.
Sa reine.
Putain, mais ouais. Ça, c'est un truc
c'est,
de fou.
Et donc,
quoi.
C'est sa femme, c'est sa reine. Et genre, le gars, il va perdre ses moyens vraiment si on s'attaque à elle, quoi. Enfin, ouais. C'est complètement débile, c'est dépassé comme romantisme. Encore une fois, avec 10 000
guillemets. Forcément, il faut qu'elle soit menacée de viol, parce que ouais. Une femme, ça doit être menacée de viol, c'est un peu. Enfin, ouais. Sinon, c'est. Elle est, voilà.
Je trouve que c'est un peu niveau Luc Besson, parce que finalement, cette nana, c'est la seule nana du truc, et à un moment, on te dit, soi-disant, qu'elle est badass parce qu'elle arrive à bien tirer. C'est exactement comme dans un Luc Besson, où la nana, on va te dire qu'elle est badass parce qu'elle est bien gaulée et qu'elle se bat, et ça va pas plus loin, mais en fait, ça n'a rien de féministe.
C'est qu'en fait, elle a des caractéristiques d'homme.
Oui.
Et moi le truc qui me gêne le plus, c'est que tu peux montrer des personnages qui sont bof, qui sont des enfoirés, qui font des trucs dégueulasses et tout, mais ce qui me gêne, c'est qu'il n'y a aucune distance. J'ai l'impression que Guy Ritchie, il est d'accord avec ça, et c'est ça qui me gêne. C'est que quand tu regardes The Irishman, qui est un autre film de gangster qui est pas si vieux et qui est, on va dire, un film masculin, mais c'est pas un film masculiniste. La fin de The Irishman, c'est putain, surtout ne devenez pas un gangster, c'est la merde, vous allez avoir une vie de merde, vous allez pas avoir de famille, c'est horrible sur la vieillesse et tout. Il y a un recul qui est énorme de Scorsese par rapport à la figure du gangster, et là c'est une apologie du gangster. Être gangster, c'est cool, être violent, c'est cool, et il se la pète à la Tarantino comme ça, sauf qu'il n'y a pas du tout le recul, il n'y a pas le regard, quoi.
Je suis jaloux de vous tous, parce que vous avez ressenti quelque chose en voyant ce film. Moi non.
Non, mais c'est vrai, on ressent pas grand chose.
Pour raconter un peu comment j'ai vécu le film, j'étais assis dans une salle qui était pleine, alors ça m'a surpris, hein. Une grande salle des Halles qui était pleine, les gens en jouaient, et moi j'étais au milieu, et j'étais le gars neutre qui ne ressentait rien. J'étais au milieu en mode, je trouve rien de ce film, quoi. Je ne ressentais aucune émotion, et j'avais des images qui défilaient devant moi en mode. Alors déjà, c'est un film de Guy Ritchie que j'ai déjà vu plus d'une fois, alors voilà, côté renouvellement, il n'y a rien, et puis surtout, mais. Les acteurs, ils sont en service minimum, quoi. Et même Matthew, quoi, tu fais frère, t'as un Oscar, quoi. Ouais. Tu es vraiment y aller en mode détente, quoi.
Après, il a rien à jouer. Hein.
Et non, bah, je vais pas redire tout ce que vous avez dit. Je suis parfaitement d'accord avec ce que vous avez dit, mais voilà, j'aurais aimé être en colère, parce que vraiment, au moins, j'aurais ressenti une émotion forte avec le film. Et non, je suis ressorti en mode, ben voilà, j'ai perdu mon temps. Voilà. Le seul fait que je peux relater de ce film, c'est que j'ai perdu 1h54 de ma vie, ou 2h, enfin, je sais plus combien c'est, mais j'ai perdu 2h de ma vie, quoi. Voilà. 2 heures de perdu, on aurait pu l'appeler comme ça, ce film.
Ah, complètement, je me suis dit pareil, j'ai pensé au podcast 2 heures de perdu, je me suis dit, ah, pour le coup, ça serait drôle dans ce podcast. Mais ouais, voilà, c'est vraiment 2 heures de perdu. Et d'ailleurs, pour revenir au titre The Gentleman, du coup, je ne vois pas à quel endroit il s'applique, peut-être à part
si, il mange
le personnage de Charlie Hunnam. Je suis désolée de dire ça, parce que souvent on dit ça des nanas quand on est sexiste, mais là, moi, je vais être sexiste vis-à-vis des hommes. Le personnage de Charlie Hunnam est peut-être le moins énervant, parce que c'est celui qui la ramène le moins. Les autres, il la ramène beaucoup trop, je suis désolée, j'ai envie qu'il se taise. Et lui, au moins, il se la joue un peu gentleman, c'est peut-être le plus gentleman de tous, mais encore...
Il fait ce qu'on lui dit.
Et au moins, il se la ramène pas trop, et c'est ce qui le rend plus appréciable.
Et tout ce que j'entends que vous dites là, c'est pas ironique du coup, le titre.
Mais, oui, mais c'est ce que je te dis, il n'y a pas la distance. C'est que si c'est ironique, le film il est raté, parce que moi je sens pas du tout un gars qui se moque de ses personnages, je sens qu'il les kiffe en fait.
Non, il les glorifie clairement.
Et l'histoire, c'est juste navrant. Enfin, si on parle un peu de scénario, il y a aucune évolution de personnages, les personnages à la fin ils sont exactement pareils qu'au début. Et l'autre truc, c'est que c'est juste c'est des faux twists scénaristiques, et le seul enjeu, c'est qui va enculer qui. C'est-à-dire, est-ce que c'est les Chinois qui vont gagner à la fin, ou les Anglais, ou les Russes, ou les voilà, et c'est que ça. Et non, mais en fait c'était eux, et on s'en fout complètement.
C'est clair, on s'en bat les couilles. Je regardais le film en mode BLC, quoi, mais je m'en bats les couilles, mais qu'est-ce que je fais là.
Bah, tu peux avoir aucune implication spectateur parce que le film ne raconte rien en fait. Mm. C'est qu'un bon film de gangster, ça parle d'autre chose que des gangsters. Enfin, ça parle de la vie en fait. Ça parle du pouvoir.
Ouais, ou la famille, tu vois, il n'y a rien. Ils n'ont pas de famille, ils n'ont pas de gosses.
Là, ça ne parle de rien.
Si encore il y avait un petit bout de pain, on va dire, sur les aspects techniques et de mise en scène auquel se raccrocher. Mais non, même pas, quoi. Je veux dire, c'est dégueulasse. Il n'y a aucune mise en scène dans tout ça. C'est du plan-plan. Ou même carrément, des fois, les scènes de baston, on te les filme mal. Et du coup, on justifie ça en montrant ça à travers l'écran d'un ordi sur YouTube. J'ai plus envie de voir un chien en CGI dans la neige que.
On a plus de sympathie pour Beck.
Des gentlemen en vrai. Alors, certes, très stylé, mais. Non, rien à sauver. N'allez pas voir ce film.
Voilà. On a bien descendu.
En résumé,
et du coup, à qui le recommanderiez-vous?
C'est parti, cette rubrique, j'ai hâte de savoir.
À qui le recoco?
À qui le recommandez-vous?
À qui le recoco?
À qui le recommandez-vous?
À qui?
À qui le rococo? Bonne question là pour le film d'aujourd'hui. En tout cas, ça va pas être des recommandations positives. Hein. Ça va être plus en mode tiens, vas-y. En fait, c'est un piège.
C'est ça.
Non, moi c'est une recommandation sincère.
Alors vas-y, Kevin, montre-nous.
Et ben moi je le recommande chaudement à tous les apprentis opticiens parce qu'il y a quand même beaucoup de paires de lunettes dans ce film. Ils ont tous des lunettes. C'est assez incroyable. Sauf la femme de Pearson et Pearson lui-même qui ont pas de lunettes parce que c'est des lions, ils voient bien. Mais sinon, tout le monde a des lunettes et pas des lunettes de merde. Hein, je tiens à vous le dire, il y a quand même des superbes monocycles. Je ne connais rien en numéro, je vais me taire.
Il y a des petits placements Ray-Ban.
Voilà, il y a des placements lunettes partout, quoi.
Clémence.
Moi, un petit détail, je le recommande aux amateurs de barbecue parce qu'il y a un chouette modèle de barbecue. C'est peut-être le truc que je retiendrai du film, en fait.
Ça te chauffe les genoux.
C'est vrai.
Ouais, ça a l'air pas mal, ça. Ça barbecue sans fumée.
Ouais, ça donne
barbecue de riche, hein. Il faut un certain budget.
Ce petit barbecue, là, puis la viande aussi.
La petite bœuf wagyu, là. Ouais.
À ce moment-là. Clément, une rococo?
Moi, j'avais écrit « Même pas à mon pire ennemi ».
Ah ouais.
Oh là là.
Ah,
mais c'est mieux ou moins bien que Godzilla?
Sincèrement, je suis pas loin de penser que
j'adore
c'est
le maître étalon de Godzilla.
Le maître étalon, c'est clair. La plus grosse douille de 2019. Godzilla.
Et toi, Romain, tu le rococo?
Alors, si je dois trouver une recommandation dans ce film, alors à qui je le recommanderais? Si, je recommanderais peut-être à Alain Finkielkraut.
Oh,
alors, non, ne vous emballez pas.
J'ai hâte d'entendre la suite.
Ne vous emballez pas. C'est simplement pour changer son style de merde à Alain Finkielkraut qui s'habille comme une couille parce que le film, mine de rien, hein, est très Christina Cordulesque. Il est très, très bien niveau style. Ils ont un style. Moi, j'étais jaloux à chaque fois. Je fais, ça va super bien ensemble. Tous ces tartans et ces vestes. Et par contre, voilà, si peut-être la seule chose à sauver dans tout ça, c'est vraiment le style des gars.
Ah bah, il faut quand même reconnaître aux Anglais leur goût vestimentaire quand même de pointu.
It's not wrong. C'est pas faux.
Avec aussi évidemment au passage des blagues homophobes, hein, on l'a pas dit. Mais...
Oui, parce que franchement, c'est marrant de se moquer des gays aussi.
Non, il y a tout. Mais tu vois, il se moque de ces gays-là précisément. Hein.
Il a expliqué.
Comprenez d'accord. Un peu.
En fait, le problème, c'est pas
gars.
Qu'il soit gay, c'est que la personne dont il se moque est gay. Et... Enfin voilà, tu comprends?
D'ailleurs, Guy Ritchie est toujours là, mais tu n'es pas parti. Non, je reste parce que j'aime beaucoup souffrir. Vous écoutez les critiques. Je prends des notes pour Alain Dadeu.
Après, je crois
qu'il
est ceinture noire de judo, il va nous défoncer. Hein.
Le trop pas, il a 60 ans, un coup de pied dans les couilles, c'est fini.
Donc des belles rococo. Ah, et ben sur ces belles rococo, les amis, je pense qu'il est temps pour nous. De nous dire au revoir.
On n'est pas bien?
Si.
Paisible. À la fraîche. Décontracté du gland. Et on bandera quand on aura envie de bander.
Voilà, voilà. Une belle virée dans le Grand Nord avec Harrison Ford et son toutou en CGI, plus vrai que nature aussi, hein, comme nos amis du Roi Lion à l'époque.
Plus vrai que nature, c'était un bon titre.
Ah
ça
oui, ou ah alors c'est une bonne catchphrase.
C'était notre catchphrase pour le Roi Lion. Quand on a fait le Roi Lion. Et
déjà
oui.
Pris.
On radote.
Qui était un épisode, l'épisode combien, Clément?
14.
Et c'était l'épisode numéro 12.
Mais tu bluffes quand tu dis ça ou tu les connais tous par cœur?
Tu vérifieras.
Oui, il a raison.
Incroyable.
Je les montre, les épisodes, je sais. Et match retour sur cette merde. C'est bloody fucking shit. Mauvais, shit et mauvais. The Gentleman, qui n'est pas du tout un film de gentleman, mais un film de connard.
The Connards.
Libre à vous d'aller le voir ou pas, hein. Peut-être que vous allez kiffer ou pas, de toute façon, de toute manière, votre liberté vous appartient. qui sommes-nous ?
Qui sommes-nous pour juger ? Hein ? Personne.
Les réseaux, Facebook, Twitter, Instagram, les plateformes d'écoute, il y en a plein, une au hasard comme ça, Clément.
PodCloud, on a été top 5.
Et merci à tous toujours de nous écouter de plus en plus nombreux. Ricochet sur le cœur, les loulous. Bonne soirée, bonne journée. Ça dépend où vous en êtes à ce moment-là de votre écoute. Et moi, je renfile le traîneau. Hop, allez, venez là que je vous attache. C'est parti.
Eh oh non.
Direction le Yukon, une terre dangereuse. À la semaine prochaine.
Shoshana!
La pire intro de l'histoire, mais c'était drôle.
Pourquoi pas?